France Culture, il est 18h. Le journal, Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Le Sea-Watch force le blocus italien. Le navire humanitaire fait route vers Lampedusa pour mettre à l'abri une quarantaine de migrants. Matteo Salvini est prêt à envoyer la police pour empêcher l'accostage. Les explications de Louise Baudet dans un instant. Aux États-Unis, les photos d'un père migrant et de sa petite fille, tous deux noyés dans le Rio Grande, suscitent l'indignation. Les candidats à l'investiture démocrate évoqueront ce drame ce soir à Miami lors de leur premier débat. La correspondance de Grégory Phillips. Des Tunisiens réclament à la France des excuses et de l'argent pour des affrontements meurtriers à Bizerte dans les années 60. La demande émane de l'instance Vérité et Justice mise en place en Tunisie. Le décryptage de l'historien Pierre Vermeren dans ce journal. L'actualité française, un rapport parlementaire pointe des phénomènes de radicalisation islamiste dans les transports en commun, notamment à la RATP. L'entreprise n'a pas forcément les moyens d'y répondre. Nous verrons cela avec Simon Cardona. Agnès Thil, exclue de La République En Marche, la députée de l'Oise paye son hostilité à la PMA pour toutes et surtout ses multiples propos polémiques sur le sujet. Les explications à suivre de Pauline Pénanec. La polémique entre le gouvernement populiste italien et les ONG pro-migrants tourne ce soir au bras de fer en pleine mer. Le navire humanitaire Sea-Watch a décidé de forcer le blocus mis en place par Rome. Il est entré dans les eaux territoriales italiennes pour rejoindre le port de l'île de Lampedusa. À son bord, 42 migrants venus de Libye, bloqués sur le bateau depuis 2 semaines. Matteo Salvini est furieux. Le ministre italien de l'Intérieur réaffirme sa position. Les ports italiens sont fermés aux ONG. Sea-Watch répond qu'il s'agit d'une urgence humanitaire, Louise Baudet.
Elle encourt des poursuites pour aide à l'immigration clandestine, risque jusqu'à 50 000 euros d'amende et la mise sous séquestre du navire. Carola Racchetto, capitaine du Sea-Watch, a pourtant mis le cap sur Lampedusa à la mi-journée. Une absolue nécessité, explique la porte-parole de l'ONG en France, Marie Faggianelli.
C'est des personnes qui fuient l'enfer libyen, qui sont dans un état psychologique extrêmement fragile, qui ont subi des tortures et des viols et qui psychologiquement sont au bout. Et là, il faut absolument qu'ils arrivent dans un port sûr.
Le bateau devrait être rapidement arraisonné par les gardes-côtes italiens, car un décret publié la semaine dernière ordonne aux forces de l'ordre d'empêcher l'entrée du navire dans les eaux territoriales. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, l'a répété avec véhémence cet après-midi en direct sur les réseaux sociaux.
Nous ferons usage de tous les moyens légaux permis pour bloquer cette insulte. Les lois d'un État se respectent. Nous avons déjà donné, nous avons déjà payé, nous avons déjà accueilli. Les frontières d'un pays sont sacrées, ok ?
Nouvel épisode donc du bras de fer entre l'ONG Sea-Watch et l'homme fort de l'extrême droite italienne. Mais au-delà, c'est l'Europe qui est visée. L'Europe incapable de sauver des vies humaines selon l'ONG qui a saisi sans succès la Cour européenne des droits de l'homme. Mais l'Europe incapable aussi d'aider l'Italie, accuse Matteo Salvini.
Ils s'en foutent depuis des années. Ils laissent l'Italie toute seule, combattre pour la défense de son territoire, de sa sécurité, de ses frontières. Et après, ils nous demandent des comptes. Mais c'est une plaisanterie.
Nouvelle occasion pour Matteo Salvini de conspuer l'Union européenne et d'afficher des résultats auprès de son électorat. Depuis son accession au pouvoir il y a un an, les arrivées de migrants sur les côtes italiennes ont chuté de façon spectaculaire, moins 85% au premier semestre par rapport à l'an dernier.
Louise Baudet, merci. La question migratoire est aussi au cœur du débat politique aux États-Unis. L'émotion est vive aujourd'hui après la publication de photos montrant les corps d'un migrant et de sa fille de 2 ans. Ils se sont noyés dans le Rio Grande en tentant de passer clandestinement aux États-Unis depuis le Mexique. Cliché tragique qui illustre les risques pris par certains migrants pour rejoindre l'Eldorado américain. D'autant plus que la fermeture de la frontière mexicaine aux clandestins reste une priorité pour Donald Trump. Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, vous êtes à Miami pour suivre ce soir le premier débat des candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de l'an prochain. Ces photos terribles, les candidats vont bien sûr en parler.
Oui, inévitablement, les 10 candidats qui seront ici ce soir sur la scène du Adrian Arch Center parleront évidemment de cette image et du sort des enfants de migrants qui chaque jour tentent de traverser le Rio Grande. Tout à l'heure, l'ancien secrétaire au logement d'Obama, Julian Castro, candidat à la Maison Blanche, me confiait que l'image de cette fillette et de sa mère lui avait brisé le cœur et qu'à ses yeux, elle était le résultat de la politique menée par l'administration actuelle de refus des demandes d'asile. Et puis une autre candidate, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, s'est rendue ce matin avant de participer au débat de ce soir dans dans un centre d'accueil et de rétention situé pas très loin de Miami. Ce débat des démocrates intervient alors que la question des enfants de migrants était effectivement au cœur de l'actualité. La semaine passée, un groupe de juristes et de médecins a pu visiter le centre de rétention de Clint au Texas. Et ce qu'ils ont vu là-bas, ce sont des enfants sans savon, sans dentifrice, sans couche propre pour les bébés. Indignation dans le pays. Le commissaire en charge des douanes et de la protection des frontières a démissionné et la Chambre des représentants a voté tard hier soir en urgence une aide humanitaire de 4,5 milliards de dollars pour la frontière sud. Donald Trump, enfin lui, sur Twitter, rejette la faute sur les démocrates qu'il accuse de vouloir des frontières ouvertes et donc de favoriser, aux yeux du président américain, le crime, les trafics de drogue et d'êtres humains.
Grégory Phillips, ce correspondant aux États-Unis en direct de Miami. Merci. La fiancée turque du journaliste saoudien Jamal Khashoggi était à Genève aujourd'hui pour réclamer justice. Radije Cenkiz demande à l'ONU une enquête internationale sur la mort de son mari, assassiné en octobre dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Enquête préconisée la semaine dernière par la rapporteure spéciale des Nations Unies, Agnès Callamard. Elle avait publié un rapport accablant sur l'implication du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du dissident. Mais pour l'instant, Jérémy Milanche, l'ONU temporise.
Vêtu d'un voile beige, le regard un peu perdu devant les journalistes, Radije Cenkiz a du mal à raconter ce qu'il s'est passé le 2 octobre 2018. Quand Jamal Khashoggi n'est pas ressorti du consulat à Istanbul, pas une seule seconde, elle n'a pensé à un meurtre commis par des agents de l'État saoudien. Comme la rapporteure spéciale des Nations Unies dans ce dossier, Radije Cenkiz appelle le secrétaire général de l'ONU à lancer une enquête criminelle indépendante.
Je suis confiante, je suis sûre qu'une enquête criminelle internationale verra le jour. Je ne crois pas que ça restera simplement un appel. Nous avons tous été témoins de ce meurtre. Jamal défendait les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression. Il n'avait aucun but politique. Je ne crois pas que son cas restera dans un tiroir aux Nations Unies. Je crois que le monde entier va réagir. En tout cas, c'est ce à quoi je vais m'employer.
Problème, le dossier Khashoggi est très politique. Trop peut-être pour le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui renvoie la balle aux États membres, avec le risque que le Conseil de sécurité enterre le dossier. Radije Cenkiz compte aussi sur le lobbying de l'Europe et surtout des États-Unis où Jamal Khashoggi s'était exilé. Elle a en tout cas reçu des signes encourageants, dit-elle, du Congrès américain. La suite, Radije Cenkiz ne la connaît pas. 9 mois après les faits, la jeune femme a toujours du mal, dit-elle, à se convaincre que son fiancé a été assassiné en venant récupérer un simple document pour leur mariage.
Jérémy Lanche, correspondant à Genève. Nous vous en parlions ce matin sur France Culture. En Tunisie, un organisme officiel exige de la France, l'ancienne puissance coloniale, des excuses et des dommages et intérêts, demande formulée par l'instance Vérité et Dignité qui doit faire la lumière sur les crimes d'État commis en Tunisie sous les régimes des présidents Bourguiba et Ben Ali. Cette instance s'en prend désormais à la France pour ce qu'elle appelle des crimes commis par l'armée française après l'indépendance, notamment en 1961 sur la base de Bizerte restée aux mains des Français. Des affrontements avaient éclaté avec les Tunisiens faisant des dizaines de victimes tunisiennes. Alors quel sens donner à ses demandes d'excuses et de réparation près de 60 ans après les faits. Élément de réponse avec l'historien spécialiste du Maghreb, Pierre Vermeren.
On est en pleine guerre d'Algérie, la Tunisie est indépendante depuis 5 ans et la France occupe la base aéronavale de Bizerte qu'elle doit quitter en 1963. Et Bourguiba réalise que l'Algérie donc va être indépendante et il décide de faire pression sur le gouvernement français, en réalité de provoquer une crise pour la récupération de Bizerte, avec un objectif secondaire qui est de négocier tant qu'il est temps la frontière entre la Tunisie et l'Algérie avec la France, parce qu'il sait que ce sera très difficile avec le FLN. Et donc, il organise une crise en envoyant des civils à main nue pratiquement marcher vers cette base de Bizerte. Il sait très bien le risque encouru et cela tourne évidemment à une répression sanglante, à des tirs.
Que dit de la situation politique actuelle en Tunisie cette demande de réparation adressée à l'ancienne puissance coloniale française ?
Écoutez, la situation va très mal en Tunisie. Les élections générales, législatives puis présidentielles doivent se dérouler en septembre. Et surtout, une situation économique tout à fait désastreuse puisque les Tunisiens ont perdu entre 50 et 90% de leur pouvoir d'achat depuis la Révolution. Ce type d'opération, c'est davantage une communication politique pour détourner l'attention vers des sujets dont on pense, dont on présume au Maghreb qu'ils sont toujours très populaires, même si la population aujourd'hui, évidemment, est très très éloignée de ces préoccupations d'il y a 70 ans, de l'époque coloniale.
L'historien Pierre Vermeren répondait à Bertrand Galichet. Emmanuel Macron est au Japon. Le chef de l'État effectue sa première visite dans le pays alors que doit débuter le G20 en fin de semaine à Osaka. Emmanuel Macron qui a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe, mais aussi une partie de la communauté française installée dans le pays. Et à deux jours du sommet d'Osaka, le président a mis le G20 sous pression. Il menace de ne pas signer l'accord final si la question du climat n'est pas abordée.
J'ai entendu beaucoup dire « j'ai des lignes rouges ». Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus signer les communiqués en G7 ou en G20 parce qu'il y a des lignes rouges. Moi, j'en ai une. Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. C'est simple. Ce sera sans la France parce qu'on ne peut pas chez nous être sous la pression de notre jeunesse à juste titre, faire de plus en plus sur ce sujet, dire on a des débats très importants au niveau européen, et quand on se retrouve à 20, dire excusez-nous de vous demander pardon, nous avons vu que ça vous chagrinait qu'on ait les accords de Paris, que la communauté internationale, à l'exception de quelques-uns, soit engagée. Non, si l'un ou l'autre ne veulent pas signer, qu'ils se désignent eux-mêmes. Mais nous ne devons pas collectivement perdre de notre ambition ensemble.
Emmanuel Macron au Japon, propos recueillis par Julie-Marie Lecomte. En France, les services publics sont relativement épargnés par la radicalisation, mais la menace est toujours là. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire rédigé par deux députés, le républicain Éric Diard et le macroniste Éric Pouliat. La radicalisation est un terme qui, en l'occurrence, concerne d'abord l'islamisme. La police, la gendarmerie, l'armée sont aujourd'hui bien protégées face au phénomène. En revanche, la situation est plus délicate dans les prisons, les fédérations sportives ou les transports en commun. Exemple avec la RATP en région parisienne. En 2018, la régie a reçu une centaine d'avis défavorables du SNEAS, le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité, qui repère les individus soupçonnés de radicalisation dans la fonction publique. Simon Cardona, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Le problème, Simon, c'est qu'une fois que la RATP a été avisée, elle ne peut pas faire grand-chose contre le radicalisé présumé.
Oui, car pour l'instant, les entreprises ne reçoivent qu'un avis défavorable de la part du SNEAS. Les preuves sont fournies par les services de renseignement français. Elles sont donc confidentielles, explique Éric Pouliat, l'un des rédacteurs du rapport.
C'est tout le rôle du SNEAS, c'est de garantir quand même la liberté individuelle et les informations sur les personnes. Il faut alors clairement là voir comment on peut séparer cet agent. Il est difficile aujourd'hui, pour l'instant, de dire je vais le licencier parce qu'il est radicalisé. Pour ça, il faut apporter des preuves. Et là, les preuves, on doit faire référence aux fameuses notes blanches que les services de renseignement ont étayées pour pouvoir justement ficher cette personne. Et le problème, c'est que ces notes blanches, si on les divulgue à les personnes concernées, ben on met en difficulté l'ensemble des personnes qui ont participé au renseignement.
Autre limite, l'agent du service public peut bien entendu se défendre et poursuivre son entreprise devant le tribunal administratif. Et le juge n'a lui aussi qu'un avis défavorable comme preuve. Éric Pouliat aimerait que la justice puisse avoir accès au dossier et donc proposer un débat contradictoire entre les parties.
La question est de dire on pourrait avoir un contradictoire asymétrique. Ça existe dans d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, je crois. Une partie est entendue. Elle peut donner des informations au juge et la personne peut venir la contredire dans un deuxième temps. Comme ça, elle n'a pas eu accès aux éléments à charge qui ont été donnés contre elle.
Voilà, les deux rapporteurs savent que leur solution peut contredire le droit français et qu'elle n'est pas parfaite. Mais selon eux, ce rapport est simplement composé de préconisations pour aller plus loin dans la prévention du terrorisme.
Simon Cardona, merci. Depuis ce matin, les pompiers professionnels sont appelés à la grève pour demander des moyens supplémentaires. Le mouvement doit durer jusqu'au 31 août, mais il ne devrait pas perturber les secours. Les pompiers étant tenus d'assurer un service minimum. Les syndicats de pompiers dénoncent une dégradation des conditions d'intervention et ils interpellent le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les explications d'Adrien Palluet.
La décision a été prise la semaine dernière par les syndicats de sapeurs-pompiers. Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, ils annoncent qu'ils se mettent en grève pour tout l'été. C'est le seul moyen, selon eux, d'attirer l'attention sur leurs conditions de travail. Christophe Sansou est pompier professionnel et secrétaire général de l'Union nationale FO des sapeurs-pompiers.
Nos revendications sont celles qu'on a transmises au ministre, donc une revalorisation significative de la prime de feu. Cette prime n'a pas été revalorisée depuis 1990. On demande aussi qu'on continue à bénéficier des acquis que l'on là. Et après, on demande un recrutement de personnel dans les différents départementaux, puisque nous avons les interventions qui ne cessent de croître.
Les sapeurs-pompiers craignent aussi pour leur statut de fonctionnaire. Ils estiment que le projet de loi de transformation de la fonction publique affecterait encore leurs conditions de travail.
Aujourd'hui, le secours à personne représente 80% des missions. Il y a une désertification médicale, donc de plus en plus, on fait des missions qui ne sont pas dévolues. Et pendant qu'on fait ces missions-là, eh bien, on n'a pas le personnel qui peut être disponible pour assurer les missions régaliennes, qui serait un incendie ou un accident important.
Ce matin, toutes les parties étaient réunies à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Olivier Richefou, son président, a regretté le choix de la grève.
J'ai rappelé que le dialogue était la règle de base et qu'il était nécessaire de continuer en mettant tous les acteurs autour de la table. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité créer un groupe de travail sur ces questions qui préoccupent fort justement les sapeurs-pompiers face à l'augmentation de la pression opérationnelle.
Les sapeurs-pompiers grévistes doivent mener des campagnes d'affichage durant toute la période de grève.
Adrien Paluet a noté que ce mouvement de grève nationale ne concerne pas les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille qui sont des militaires. Le couperet est tombé cet après-midi. La députée Agnès Thil a été exclue de La République En Marche. L'élu de l'Oise paye ses propos polémiques sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, une réforme promise par le candidat Macron qu'elle rejette vigoureusement. Le projet de loi doit arriver à l'Assemblée dans les prochaines semaines. Pauline Pénanec, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Agnès Thil va contester son exclusion de LREM.
Et oui, selon la commission, Agnès Thil tient des propos préjudiciables à la cohésion du parti. Elle déplore le caractère pernicieux des propos qui génèrent de l'agressivité lorsqu'elle parle d'un prétendu lobby LGBT du Palais Bourbon ou encore quand elle compare la souffrance des femmes seules ayant recours à la PMA à celle des drogués. Mais Agnès Thil ne comprend pas. Pour elle, c'est scandaleux, injuste. Je suis exclue pour rien.
Il n'y a rien d'insultant, rien d'homophobe, rien d'injurieux, rien, absolument rien. Normalement, nous sommes un parti ouvert, inclusif, tolérant, bienveillant. En tout cas, c'est ce qui est affiché. Pour moi, c'est un délit d'opinion.
Et son exclusion est saluée notamment par Mathieu Orphelin, ex-député LREM, mais aussi par des associations de lutte contre l'homophobie. Mais cela reste une erreur politique pour l'élu de l'Oise. Elle contestera son exclusion en justice dans les prochains jours. Son avocat, maître Richard Séban, ajoute qu'il n'y a rien de répréhensible juridiquement.
Il y a un certain nombre de manquements qui lui sont reprochés, qui ne sont absolument pas établis. Donc la question n'est pas de savoir si Madame Thil a raison d'être pour ou contre l'extension de la PMA, c'est pas ça la question. C'est a-t-elle le droit de s'exprimer sur ce sujet? Les statuts disent que oui, donc on lui confronte les valeurs d'En Marche. Est-ce qu'elle a manqué au fondement du mouvement, de ce mouvement politique? Moi, pour moi, absolument pas.
Et la députée de l'Oise attend en tout cas sa lettre officielle d'exclusion. Elle nous dit même qu'elle sera à l'Assemblée demain, tant qu'elle n'aura pas eu de nouvelles du parti.
Pauline Pénanec, merci. Politique toujours avec la jeune garde des Républicains qui donne de la voix. Un mois après la débâcle de la liste Bellamy aux européennes, une vingtaine de jeunes députés LR ont installé ce matin leur comité de renouvellement. Leur but, contribuer à la refondation du parti en apportant leur expérience de terrain, mais surtout leur jeunesse. LR, selon eux, doit changer de visage pour s'ancrer à nouveau dans le quotidien des Français. Aurélien Pradier, député du Lot, est aux commandes de ce comité qu'il voit comme un nouvel outil pour LR.
C'est un outil dans lequel les jeunes élus vont se remettre au travail et perturber notre famille politique. Pensons que l'avenir de la droite ne peut se reconstruire que si la droite se remet en question. Donc on va sûrement devenir le poil à gratter de notre famille politique pour réinventer des idées sur des sujets qui sont des sujets qu'on a souvent abandonnés. Le logement, le handicap, l'alimentation. Sur ces sujets-là, nous pouvons avoir des idées nouvelles, différentes d'Emmanuel Macron et du Rassemblement National, imprimer l'ADN de ce qu'est la droite pour l'avenir de ce pays. Et nous voulons sortir de cette méthode qui consiste à choisir des chefs avant de choisir les idées. Notre génération a cette responsabilité de faire de la politique autrement. Et je pense que nos concitoyens nous regarderont quand ils auront compris qu'on n'est pas là pour être des gardiens de musée, mais qu'enfin on a un projet nouveau pour la France.
Aurélien Pradier, député LR du Lot, il répondait à Rosalie Lafarge. La mort d'Edith Scob, l'un des plus grands second rôles du cinéma français. L'actrice est décédée aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Edith Scob a tourné dans près de 70 films avec des réalisateurs comme Olivier Assayas, Léo Scarrax ou Raoul Ruiz. Son rôle le plus célèbre, elle l'a joué dans Les yeux sans visage, film fantastique mythique de Georges Franju, sorti en 1960. Edith Scob y incarne une jeune fille défigurée à qui son père chirurgien veut rendre un nouveau visage. La météo demain, la canicule s'accentue. 78 départements sont désormais en vigilance orange, 13 de plus que ce matin. Seules quelques zones littorales sont épargnées dans le sud-ouest, près de la Manche ou près de la mer du Nord. Les températures minimales seront très chaudes demain matin, de 18 à 25 degrés en moyenne. Dans les départements en vigilance orange, les maximales évolueront entre 34 et 40 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.